Vous êtes prêts?
Ah oui.
Et vous aussi?
Bah, alors allez-y.
Pas de regrets. On est parti.
Bonjour et bonjour et bienvenue dans ce brocage. Et oui, c'est notre troisième variation du brocage qui apparaît enfin dans vos oreilles, dans vos flux RSS. Oui.
Après quelques mois d'absence.
Nous ne sommes pas morts. Et non, vous y avez cru, mais non. Nous voilà donc de retour avec un brocage. Brocage, c'est donc la déclinaison du brocage, mais là où on a envie de vous parler de choses qu'on aime tous les deux. C'était trop frustrant, donc du coup, brocrash, les films qu'on déteste tous les deux, brocash, les films qu'on aime tous les deux, broclash, là où on s'oppose.
Voilà, pour les films ou les livres, ou les...
Voilà,
vous connaissez le principe.
Sur la même logique, si ce n'est que là, vous ne votez pas, puisque de toute façon, on est d'accord, il n'y a donc pas d'opinion.
Et sauf que là, c'est un brocash qu'on n'aurait pas voulu faire, en fait.
Enfin, oui, mais peut-être pas comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu l'actu qui l'a amené, parce que on veut parler de Jean-Paul Belmondo. On veut parler de cet acteur parce que dans notre cinéphilie réciproque et commune, c'est quelqu'un de très important au final, de très, vous savez, c'est ce genre d'acteur ou de filmographie un peu fondatrice, mais qui a jamais l'air d'en être,
ah, et qui on est tous les, amène on est toujours tous les quelque chose. Dans les années 70, milieu ou fin des années 70, donc en fait c'est quelqu'un qu'on a toujours vu à la télévision, dans les rediffusions, enfin on. Quand on est ado ou jeune enfant, on est en plein milieu des années 80 et c'est le boom de Belmondo qui est partout dans une époque. Alors après, quand on va s'intéresser à la cinéphilie plus sérieuse, c'est le moment où il va commencer à lui aussi changer un peu de cinéphilie, enfin de type de cinéma. Mais voilà, forcément, dans notre enfance commune, même si on a quelques années d'écart, il y a des affiches de Belmondo, l'imagerie de Belmondo...
Le on professionnel. On va
reparler de l'Algérie 80, le pétard, le jean et tout. Typiquement, si vous avez vu l'avant-dernier Quentin Dupieux, il y a deux films de Quentin Dupieux, tous au poste, avec Peter Pulvord, voilà, c'est une affiche qui s'inspirait complètement de Belmondo.
C'était l'affiche du Marginal même.
C'était l'affiche voilà, où il pose. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a fait partie, alors le hasard a fait aussi qu'un de ses proches a une connexion familiale avec nous, en matière de lieu de naissance, on va dire. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été, voilà. Puis effectivement, c'est quelqu'un qui a toujours été présent. Alors après, il a une filmographie et ça, c'est ce dont on va parler, variée
et riche
et qui parfois a posé des questions sur le comment dire ça.
Et puis au-delà de sa filmographie en elle-même, par rapport à nous. C'est quelque chose qui est rentré en nous de façon pas du tout par le même axe, même si c'était le même acteur. Moi, le premier film de Belmondo, pour moi, le premier qui me revient immédiatement en tête, c'est Le Professionnel. C'est cette imagerie de Joss Beaumont, c'est la musique, Sergio Leone, Ennio Morricone. Ennio Morricone, j'ai demandé. Ennio Morricone et Chimay qui est incroyable. Et puis, assez paradoxalement, c'est par cette imagerie-là qu'ensuite je vais aller vers le samouraï, que du samouraï je vais finir par aboutir au film de Hong Kong. Et à John Woo, c'est toute cette espèce de melting pot du début des années 80 pour moi qui... construisent une envie d'un autre cinéma. Enfin, je parle pour cette partie-là, pas pour la partie SF ou fantastique, hein, mais pour la partie cinéma d'action, d'actionneur, je suis moins passé par Commando que je ne suis passé par Le Professionnel, par exemple.
Bien sûr, Le Professionnel, c'est un choc. Il y a un côté le film pas américain, parce que je trouve que Le Professionnel a un côté profondément français dans les dialogues. Alors, c'est du Georges Lautner, c'est des dialogues d'Audiard en partie.
En partie seulement.
Pas complètement. Qui donne des répliques cultes, des échanges, voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai vu l'espionnage français pendant des années, quoi. Voilà, le côté... D'ailleurs, même à regarder, pas quasi aujourd'hui, mais même dans les années 2000, l'espion français vendu à la France-Afrique, le dictateur africain qui d'abord est détesté, puis ensuite qui est accueilli par les autorités. Enfin,
OSS 117 lui doit beaucoup.
Voilà, il y a beaucoup de choses. Alors, on reparlera de OSS 117 de toute façon, qui a un côté très Belmondo. Voilà. Mais effectivement, c'est rigolo, c'est que moi, le premier film auquel je pense, c'est pas forcément Le Professionnel, même si je l'ai beaucoup vu, peut-être en télé ou des choses comme ça. Je pense que c'est plutôt, moi, l'itinéraire d'un enfant gâté de Lelouch qui va amorcer un virage dans sa filmographie, en fait.
Oui.
Mais après, j'adore le Belmondo des années 80, ce côté dont on a beaucoup parlé là, au moment de son décès, des cascades, des choses comme ça. Et moi, ce qui est marrant, c'est que ça m'a amené l'itinéraire d'un enfant gâté, Lelouch. Bah, Lelouch, en fait, il a quand même un lien avec la Nouvelle Vague. Et puis à un moment, moi, quand j'ai découvert À bout de souffle, dans les années 90, moi, j'ai été soufflé par la modernité d'À bout de souffle en 90. Quoi, alors que À bout de souffle, c'est le tout début, c'est les années 60, c'est... je sais même plus, là, tu vas me redire ça, parce que j'ai un trou, c'est les 60...
À bout de souffle ?
60, voilà.
60, oui.
Et il y a une... Il y a quelque chose de profondément moderne, toujours aujourd'hui, même en 2021, sur ça. Donc effectivement, même si j'adore ce côté pétard, le solitaire, le marginal, cascade, Paris, machin et tout, bah, quelque part, moi, il m'a amené à une cinéphilie plus, plus intellectuelle. Et en fait, ça va être toute la dichotomie de Belmondo et toute la question que va se poser, notamment sur sa non-reconnaissance au César, sur... sur son rapport à la critique, quelque part, je pense, au public, voilà, qui va être assez compliqué. Quoi.
Bah, c'est clairement sur cette... on est quand même face à un acteur français qui reçoit un César du meilleur acteur en 89 pour Itinéraire d'un enfant gâté et qui le refuse. Et il n'y en a pas deux qui ont fait ça. Il avait un regard, une envie, un besoin... sur son métier qui était vraiment particulier et qui était original, il n'y a pas d'autre mot. Après, moi, sa cinéphilie et moi, sa filmographie, ce qu'elle m'a plus amené, c'est que je suis monté très lentement, moi, à rebours à partir du Professionnel. C'est parce que après, je suis parti dans beaucoup d'autres choses, donc c'est vrai que je suis remonté beaucoup plus lentement. Moi, le suivant, après, c'est Le Magnifique que j'adore, que j'ai redécouvert. Ouais. Après, il y a eu, je suis passé ensuite avec le Pierrot le Fou qui m'a complètement scotché.
Bah après, on est dans le. Il y a un côté. C'est un mec qui a réussi à l'écart à faire et la Nouvelle Vague et les cinéastes que les gens de la Nouvelle Vague détestaient. Quand il tourne avec Verneuil, quand il tourne avec même Melville, mm-hmm. C'est pas des gens que Truffaut, Godard, Rivette, toute cette bande-là des cahiers du cinéma. C'est quasiment le cinéma de papa, hein, quelque part.
Mais pareil, quand il enchaîne la même année un Borsalino ou un, et Robert Enrico, je veux dire, on est en grand écart intellectuel, techniquement.
Donc, mais c'est vrai qu'il y a un côté assez fou là-dessus. Il a tourné quoi, Gérard Rouy, il a tourné... la seule chose qu'on ne connaît pas bien, nous, c'est son début de carrière un peu italien, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de coproductions franco-italiennes, donc il tournait. Et en fait, schizophrénie, j'aime pas le terme, mais ce côté, ce mélange d'être capable de faire Léon Morin prêtre et effectivement Cartouche, voilà. Mm-hmm. Alors, Léon Morin prêtre 61, Cartouche 62, quoi. Alors, je vous conseille, il y a une très bonne vidéo de Versus, le live de YouTube, entre les tribulations d'un Chinois en Chine, je crois, et le Cartouche, pour montrer que même Cartouche est quand même quelque chose de pas classique. Même si ça se veut KPDP, il y a un petit truc. N'empêche qu'il fait Léon Morin-Prêtre, qui est un truc hyper intellectuel de Melville, sur un prêtre qui tombe amoureux et une femme qui tombe amoureuse d'un prêtre. Voilà, cette dualité, il l'a déjà au conservatoire. Parce que quand il fait le conservatoire, évidemment, vous avez tous vu ça, mais il essaye de faire le conservatoire avec Jean-Pierre Marielle, Claude Rich, Pierre Vernier, Jean Rochefort, voilà, tous ces acteurs qui vont être des copains à lui tout au long de leur vie. Déjà, ça se passe pas bien parce que à la fois il veut faire le conservatoire, à la fois il en est jeté, à la fois il y a un rapport compliqué à l'institution, il y a un rapport compliqué au diktat, en fait quoi, à ce qu'on lui attend de lui, et il veut faire autre chose et il fait autre chose. Et coup de bol, effectivement, vous allez entendre 100 fois des anecdotes sur le fait qu'on lui dit qu'il ne marchera jamais, qu'il n'aura jamais de femme avec la tête qu'il a, il n'aura jamais de belle femme dans ses bras.
Ursula
que quand si Ursula Andress, voilà, Raquel, pas Raquel Welch, Ursula Andress, je cherche une autre italienne, je crois qu'elle est avec lui dans un autre film.
Claudia Cardinal.
Claudia Cardinal. Pareil, quand il fait À bout de souffle de Godard, il y a plein de gens qui lui disent. Enfin, pas avec ce mec-là, ça marchera jamais. Personne comprend ce qui se passe, à juste titre. Donc, il va garder ce truc-là. Alors, et puis, c'est même là qu'ils vont le faire démarrer, Godard, notamment, quand il va se mettre à faire du grand public, le Bebel qu'on connaît tous des années 80, bah, ils vont dire, il déconne un peu, Belmondo. Mais il arrive à manier les deux et à plaire, alors avec le défaut qu'à un moment, la profession... comme beaucoup d'acteurs, alors lui est bon parce qu'il y a des pas bons qui disent ça, mais adulé par le public, la profession elle boude un peu, quoi. Elle va bouder jusqu'à
89,
jusqu'à qu'il y en a un dans le foie gâté, quoi.
Mais c'est vraiment un acteur qui était qui donnait beaucoup de choses, je pense, dans ce qu'on en voit dans sa filmo. C'est quelqu'un qui, quand il s'engageait sur un projet, ne disait jamais non, enfin ne s'engageait réellement, il le faisait pas par l'argent, parce que dans toute sa filmo, justement, quand tu vois certains de ses films, il y a peut-être une ou deux toutes petites exceptions près, ouais, que je pourrais mettre là-dessus.
Je pense que c'est des histoires de potes, quoi.
Voilà.
Quand il tourne l'Alpagueur de Labro, quand il tourne même du Verneuil, il y a encore les Verneuil, alors il y en a beaucoup qui sont bons.
Le Solitaire de Doré aussi, qui est dans le même état d'esprit.
Je pense qu'il y a des moments où il se fait plaisir. Libé a ressorti un article de 85 où il dit... les scénaristes, des fois, l'embauchent parce qu'ils attendent de lui. Enfin, il joue avec son image. Ce que je trouve très, très étrange avec Jean-Paul Belmondo, c'est qu'à la fois, on va voir Belmondo, et à la fois, c'est pas un caméléon, c'est pas vrai. Je veux dire,
c'est Bebel que t'as à l'écran.
Sauf qu'il va avoir des personnages hyper variés. Alors, en fait, il y a quasiment trois carrières pour moi dans la carrière de Belmondo. Il y a vraiment le jeune premier dans Un bout de souffle, qui est une espèce de... J'allais dire beau gosse, mais c'est même pas un beau gosse, en fait. C'est pas Delon dans la piscine, jamais. Mais il y a un truc. Il y a une deuxième partie qui commence dans les années 70, effectivement.
Avec Peur sur la ville, pour moi. C'est Peur sur la ville en 75 qui fait la bascule.
Alors, Stavitsky, un petit peu magnifique, quelque part. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il commence par faire le magnifique en 73, qui est en fait tout ce qui va... En fait, c'est quasiment l'anti-film de tout ce qu'il va faire dans les 15 années suivantes, quoi.
Ici Bob Sinclair, j'écoute. Ah oui, bonjour, monsieur. La routine, mon général, la routine. Vous dites dévoré par un requin? Ah, ok. Et dans une cabine téléphonique? Évidemment. Oui, très bien, je règle les affaires en cours et j'arrive.
On a retrouvé le requin qui a dévoré Rodriguez?
Oui, dans une fabrique de conserve.
Et Rodriguez? Pauvre vieux Joe.
Ouais.
Vous avez un grain de peau admirable.
Mais oui, mais c'est bien. Mais c'est pour ça, le magnifique, c'est encore, il est encore en espèce de critique. Il est encore dans ce cinéma un tout petit peu plus autorisant, entre guillemets. Après, fait Stravinsky, d'Alain Resnais et Peur sur la ville, qui sont incroyables comme film,
ouais, bah,
qui sont très engagés, qui ont un ton. À partir de là, on a l'incorrigible Alpager, il y a le corps de mon ennemi qui est un petit peu en hors de, qui est pas dans le même type de personnage, et puis après on a l'animal, flic ou voyou, le guignolo, le professionnel, et l'as des as, et le marginal, et là on est quand même dans une grosse période. En vérité, en 4 ans, il se crée un personnage, il ne, n'existe mais plus il que par ce
les...
personnage.
Mais
à
il
ce
en sort tous les ans, en fait, surtout.
Oui, mais il, puis surtout, il n'existe plus que par ce personnage. Il est bébel, il est tac-tac, badaboum, il est bébel. Il n'est plus le gars qui fait, bah, qui fait Borsalino, qui fait aussi Paris Brûle-t-il, qui fait des choses comme ça. Oui, je n'ai pas parlé de Borsalino parce que sinon, je ne m'arrêterai jamais.
Et qui, est, mais, qui a fait aussi la sirène du Mississippi avec Truffaut.
Oui, voilà.
Il y a quand même quelque chose. Alors, c'est pour ça qu'en fait, cette vague-là, s'arrête avec Itinéraire d'un enfant gâté, où quelque part Lelouch, je pense, le ramène. Alors, effectivement, il s'est passé presque.
C'est 89, hein, alors que le dernier film que moi j'ai cité, on est en 83. Oui. Il va en faire encore, il y a 6 ans, il va encore faire des films du bébel.
Je refais de la pub involontaire à la chaîne de Méa, dont je parle ici de temps en temps, ME3A, qui a fait un épisode sur Hold Up, qui est un film compliqué, qui demande beaucoup d'argent, qui marche pas autant. Enfin. Et c'est Hold Up, c'est vraiment le virage. Enfin, il est au bout un peu du personnage quelque part. Je pense. Il fait Le Solitaire après, qui est aussi un classique. Et après, c'est Itinéraire d'un enfant gâté. Et après, on est sur sa fin de carrière. Alors, sa fin de carrière qu'on voyait pas comme sa fin de carrière déjà. Mais d'abord, c'est sur l'image du bébé vieux qu'on a avec la barbe et tout. D'abord, il va faire beaucoup moins de cinéma parce qu'il va se replonger dans le théâtre, qui est son cœur de métier de départ quasiment. En fait, il a fait du cinéma, il le dit par hasard parfois. Mais il va faire des choses. Alors, il va faire Les Misérables pour Lelouch aussi. Il va faire Désirer, qu'une adaptation de pièce de théâtre. Alors, il va faire Une Chance sur deux de Patrice Lecomte, où il retrouve Belmondo avec Vanessa Paradis.
Non, bon. Il retrouve Alain Delon, tu veux dire.
Alain Delon, qu'est-ce que j'ai dit?
Belmondo.
Oui, pardon. Bref, Belmondo retrouve Delon. L'Inconnu dans la maison, qui est peu connu, mais que moi j'adore, qui est un Simon par Lautner. Alors, très. En fait, je pense qu'aujourd'hui, ce serait une superbe production télé. Ouais. Côté, voilà, parce que c'est un film assez simple de procès, mais qui est vraiment brillant, porté par lui. Et alors après, il fait Clapiche. C'est marrant, il fait Peut-être, moi que je recommande, qui est très très spécial avec Duris, qui est Paris en sablé.
Moi que j'aime bien.
Je pense qu'à l'époque, il fait vraiment du.
Il marche au coup de cœur.
Il marche là. Au coup de cœur. Et puis à côté de ça, en fait, c'est la période où il va faire Keane, où il va faire Cyrano, où il va retourner au théâtre avec grand succès. Et puis après, il y aura malheureusement son AVC qui va.
Calmer tout ça.
Qui va malheureusement calmer tout ça et qui va changer un peu la donne. Mais en tout cas, sur sa fin de carrière, entre guillemets, en tout cas sur les 15 derniers films qu'il a fait, 10, j'en sais rien, on va retrouver quelque chose de qui va rappeler un peu le côté des Belmondo des premiers temps.
Que vous avez tous à avoir si peur.
Il s'agit d'un meurtre. Ça s'est passé sous votre toit, maître.
Je sais que tu ne dis pas tout.
D'où vous sortez ça, vous ?
Métier. Un peu de flair, deux sous de camberge. Va savoir. Au début, il ne s'aperçoit de rien. Mais ça s'agrandit, ça gonfle. Ça n'en finit plus de faire des vagues. Vous avez tous menti depuis le début.
Arrête, je t'en prie, tais-toi.
Et toi, ça m'a fait de la peine.
Non, mais franchement,
réfléchis. C'est tout réfléchi. Je continue.
Oui, alors ce qui est très intéressant par rapport à Itinéraire d'un enfant gâté, ce que tu dis au décalage, c'est que quand il fait. Alors je voudrais juste éviter de me tromper dans les dates. Voilà. Quand il fait son Cyrano, en 89, Belmondo fait Cyrano. Il est Cyrano sur le Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, mise en scène par Robert Hossein, au Marigny, qui était son
c'est
théâtre.
C'est 2 ans avant Depardieu. Hein.
Voilà,
c'est 92,
c'est ça
Dieu,
que je veux dire.
Et c'est alors je vais dire un truc horrible. Le seul truc que j'espère après son décès, c'est qu'on ait enfin des captations et des ressorties ou des visions de ces trucs au théâtre, parce qu'il y en a. France 2 à l'époque, France 2, tout le monde n'était pas Antenne 2 à l'époque, avait diffusé Kim, qui était sa pièce d'avant,
qui était géniale,
qui était incroyable. Alors, c'était une mise en scène de Robert Rossen. Voilà, Cyrano, après il fait du Fedo, après il se fait plaisir dans certains trucs, mais c'était des grosses pièces, c'est, dans le sens, c'était des grosses productions de pièces, et ça marchait du tonnerre, quoi. Voilà.
Alors, ce que je, donc, oui, ça marchait très bien, mais là où ça devient extrêmement intéressant, c'est que Belmondo, grande figure, établie en France depuis, à ce moment-là, plus de 30 ans, fait Cyrano. On est d'accord. 89-90, il le joue sur scène au Marigny chez lui. 90, sort le film Cyrano en 1990.
90, pardon, oui.
90, donc juste à la fin, alors je sais, ce serait intéressant de voir, c'est quasiment sur la même période que Depardieu sort le film et transcende d'une autre manière, d'une manière très différente le rôle.
Le truc, c'est qu'on l'a peu vu, en fait. Après, je ne remets pas Cyrano avec Depardieu, c'est un de mes films préférés, et c'est un très très grand Depardieu.
Overall.
Je n'ai malheureusement pas vu, moi, le Cyrano de Bergerac de Belmondo qui a dû passer, mais je maintiens qu'ils sont... C'était pas une époque où on se disait que c'était une bonne idée de passer du théâtre en télé, même après, etc.
Bah, c'est...
Je souhaite que ça ressorte, parce que voilà, il faut voir Keane, c'est assez, assez incroyable. Après, il y a aussi un autre truc, c'est qu'il fait aussi plusieurs métiers, c'est qu'il il va aussi acheter... alors, c'est pas Marigny, je crois qu'il achète...
Si.
Je crois que c'est les variétés, j'ai un petit doute.
Ah, oh, c'est une bonne question.
Je sais plus s'il achète le théâtre des variétés ou le théâtre de Marigny, mais en tout cas, ça va être forcément un autre travail qu'il va faire, et voilà. C'est vraiment quelque chose d'assez fort là-dessus, sur le portée du théâtre. Il va s'intéresser à créer un musée pour son père, il va s'intéresser à beaucoup de choses. Je pense qu'à un moment, il délaisse un peu le cinéma, pas parce qu'il s'ennuie, mais parce qu'il a fait tellement de choses que voilà. Donc ça, mais c'est vraiment assez, assez fort, et donc ça veut dire qu'il s'est renouvelé, même après 40 ans de carrière, il cherchait d'autres trucs, quoi. Et je pense que c'est ce qui le rend assez incroyable.
Bah, ce qui était bien, c'est qu'il a... Alors... Il a quand même eu des petits soucis de santé de plus en plus régulièrement à partir de 2007-2008, dans mes souvenirs. Il y avait déjà eu un souci sur une des tournées sur le théâtre qu'il avait. Mais c'était du coup quelqu'un qui avait eu l'intelligence et la conscience de se dire « c'est pas la peine, il avait une carrière, n'en faisons pas trop, continuons, il s'est arrêté au moment où il fallait ». Il est extrêmement touchant dans le documentaire d'un film à l'autre de Lelouch. Parce qu'il parle, enfin, il est d'une sincérité de ouf. Il est touchant dans le sens où c'est lui, quoi. Il est lui, et quelqu'un qui est capable, un acteur français qui va être capable d'avoir autant de tonalités, autant une filmographie aussi variée sur près de 40 ans de carrière, parce qu'on parle des années 60 pour un arrêt de carrière cinéma au début 2000, on va dire, pour vraiment être honnête. C'est quand même assez... Il n'y en a quand même pas beaucoup.
Non.
Très, très peu qui savent s'arrêter ou qui savent décélérer doucement, quoi.
Tout en restant... Tout en restant lui-même. Ce qui est très drôle, évidemment, on parle de Delon. Alors, sa supposée opposition à Delon, c'est juste qu'ils ont eu du succès en même temps. Je pense qu'ils ne travaillent pas du tout dans les mêmes... Quelque part, ils n'ont jamais travaillé dans le même registre, quasiment. Belmondo faisait de la comédie populaire au moment où Delon en faisait moins. Je pense qu'ils n'ont pas et les rares films où ils sont ensemble sont très 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 sympas. Même Une Chance sur Deux, bon, c'est plutôt rigolo, mais Borsalino est vraiment très fort. Le Borsalino & Co sans Belmondo marche presque moins, quoi.
Il marche pas, non, il marche pas.
Par contre,
je suis sans appel.
Je vais être trivial, je souhaite pas à Delon de mourir demain.
Ce serait bien, ça ferait du... Non, par contre, bon, c'est dommage.
Soyons pas méchants.
Si,
Delon va décéder, on va sortir plein de trucs problématiques. L'affaire Markowitz, ses déclarations par rapport à l'extrême droite, Delon.
Tu veux parler de son comportement avec certaines femmes ?
Voilà. Belmondo, il n'y a rien, quoi.
Alors, il n'y a rien.
Bah, le côté, le personnage, il y a une espèce de consensus. Le grand public l'aimait bien. Le cinéma, les critiques intello, alors je fais un raccourci un petit peu, mais. Avait compris quand même toute la qualité du bonhomme, même s'il pouvait trouver que les films des années 80, il tirait un peu à la corde, mais quelqu'un qui est à la Cinémathèque, qui lit les cahiers du cinéma, même s'il dit que Le Marginal, c'est de la merde, quand il voit Belmondo, il voit À bout de souffle, quoi. Et tu peux pas...
Pierrot le fou,
et c'est fini, tu peux pas enlever ça. C'est, donc quelque part, il avait réussi à fédérer tout le monde sans rencontrer tout le problème. Il a fait des fous, il a fait des trucs qui n'ont pas marché, hein. Il a fait quelques... là, je relis, je voyais qu'Amazon de Philippe de Broca en 2000, il retente de retrouver le Philippe de Broca de Tribulation d'un Chinois en Chine.
Deux vieux, là, sans méchanceté.
Ça marche plus, il fait Un homme et son chien avec Francis Huster. Bon, là, ça commence à plus aller. Donc voilà, toute sa carrière n'est pas parfaite, mais il y a un côté, voilà. D'ailleurs, je fais une aparté parce que je ne sais plus où est-ce que j'ai vu. Je pense que c'est encore Méa qui en parlait. Qui parlait des adaptations de Tintin. Et en fait, moi, ça m'a surpris parce que je ne m'y attendais pas. Et en fait, je ne sais plus si c'est L'Homme de Rio. Je crois que c'est L'Homme de Rio.
Oui.
Ou Les Aventures de la Tribulation d'un Chinois en Chine. Je ne sais plus, c'est un des deux. En fait, qui est une adaptation de Tintin, en fait. Il y a un où il faut vraiment voir ça comme une adaptation de Tintin, une espèce de film d'aventure vraiment particulier, mais où c'est un jeune naïf. Voilà. Et en fait, ils voulaient faire Tintin, puis ça ne leur pesait pas complètement, mais c'est vraiment Tintin.
Pour mes dernières vacances, Philippe de Broca, j'ai dit Philippe de Broca, merci, me dit, tu as besoin de changer d'air. Je fais un film Mario, j'ai un rôle pour toi. Je l'homme charmant, distingué, joli garçon, tout à fait pour moi. Il me dit, tu pourras te reposer, ça te fera le plus grand bien. Je dis, d'accord, un coup de Boeing, jolie petite hôtesse, et me voilà à Rio. Là, je retrouve Françoise d'Orléac, Jean Servais, Simone Renan et quelques amis brésiliens. Et enfin, Philippe de Broca me raconte l'histoire passionnante. Pleine de rebondissements, une histoire de trésors indiens, de statuettes incas, de fléchettes empoisonnées. Vachement compliqué. Et tout ça sous le ciel enchanteur de la baie de Copacabana.
Il y a des références à L'Oreille Cassée, il y a plein de références assez rigolotes.
Putain, là, je vois ce que tu veux dire, mais j'arrive plus à rattacher au film.
Voilà, regardez le Versus, c'est assez rigolo. Donc voilà, donc quelque part, il aura, au moment de son décès, il n'y a pas eu de polémique, en fait.
Bah, si tu veux vraiment comparer dans le même genre, par rapport à une autre génération, c'est toute la différence qu'il y avait, par exemple, entre un Ventura et un Montand. Ventura était quelqu'un de plein d'entier, oui, qui avait une carrière aussi très, très variée, très riche, qui avait aussi un moment très populaire. Montand avait une carrière encore plus variée, mais quand il est mort, il y a quand même eu quelques trucs qui ont été déterrés.
Ah oui, mais Montand,
alors que Ventura...
Montand s'était engagé sur des trucs, après, c'est peut-être...
Rester plus lisse, enfin, rester plus simple, pas lisse, vraiment plus
après,
simple.
Après, c'est phénoménal de voir à quel point il a été... Il y avait un espèce de capital sympathie. Alors moi, je ferais une petite anecdote, je ne l'ai jamais rencontré en vrai, dans le sens où il m'a vu. Il y a juste eu à la Cinémathèque française en 2008, je crois, la date, j'ai un petit doute, un festival sur toute la mémoire du monde où ils repassaient des films de répertoire sous ça qui arrivait à la Cinémathèque. Ils ont passé L'Homme aux rats prêtres.
Ouais.
Ils ont annoncé que Belmondo viendrait présenter la séance. Il est venu, alors il était déjà, c'est après son AVC.
En
2003 je pense qu'il me semble que c'est 2008. Il est venu, donc c'est le public de la Cinémathèque qui vient voir Léon Morin Prêtre, donc c'est pas la Cinémathèque française à Paris. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un public un peu prout-prout, parfois un peu chiant, ça peut arriver. C'est des gens qui aiment le cinéma, mais dans une extrémité parfois un peu excessive. Il est rentré, il a juste salué avec son sourire, avec le côté bronzé qu'il avait, encadré par Costa Gavras et Frédéric Bonneau, le directeur de la Cinémathèque actuelle. Ça a été une ovation du public, à fond. Mmh. Et il est reparti et ça a été un moment très, 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 très magique de voir juste son apparition, à quel point le public réagissait tout de suite et était dans une sympathie. Et il avait un côté souriant, etc. Donc c'est assez sympa pour ça. Donc c'est vrai qu'en plus, on a même ça, le côté, il n'est pas. J'exagère, peut-être qu'il y a des zones d'ombre, j'en sais rien, j'exagère un peu, mais il n'y a pas. Là, on est tous dans cette célébration positive du plaisir qu'on a, de tous les plaisirs qu'on avait à le voir au cinéma. En fait.
C'est vrai. Et il a réussi à conserver ce capital sympathie, même en disparaissant, finalement, grosso modo, des écrans. Il était. C'est quelqu'un qu'on a tous en tête de notre adolescence, enfin, tous, pour tous les gens qui ont. Allez, entre 35 et 50 ans en ce moment, hein, on a tous en tête du Belmondo, un Belmondo, et c'est pas un Belmondo nécessairement qui est... c'est jamais un mauvais souvenir, c'est pas un mauvais film, c'est pas un mauvais truc, c'est quelque chose qu'on... C'est souvent familial, d'ailleurs, honnêtement,
oui,
à tous les sens du terme. Alors, on a vu L'As des As en salle avec notre père, là, donc le côté familial, ça c'est du 100%. Hein. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je dis qu'il reste, malgré tout, c'est un élément... C'est pas une Madeleine de Proust parce qu'il a pas cette, je pense pas qu'il est dans cette aura-là.
Non, mais
il a, c'est quelque chose qui était de son époque, dont on était capable de gérer, de voir la qualité ou le plaisir simple à avoir un film de Jean-Paul Belmondo en sachant ce qu'on allait voir.
Bah, parfois dans les années 80, mais il y avait toujours, je maintiens, on évoque, voilà, alors il vient faire d'Itinéraire en frégaté.
Alors, qu'est-ce que tu l'aimes, ce film ?
Qui est un des Lelouch le plus regardable, je suis méchant.
Non, t'es réaliste.
Je connais pas assez la carrière de Lelouch, parce qu'il y a des choses intéressantes, mais il y a des choses de temps en temps, voilà. Après, ça reste un acteur qui est effectivement très intemporel, qui va toucher, comme tu disais, un maximum de générations, alors, qui l'ont vu, effectivement, pour commencer à l'avoir vu, il faut l'avoir vu dans les années, être ado dans les années 90, j'ai envie de dire. Parce qu'à la fois, on découvrait une cinéphilie nouvelle avec les films de Hong Kong, les films de Tarantino, les choses comme ça dans les années 90. Et à la fois, on découvrait le patrimoine français. Et en fait, c'était un patrimoine français sur lequel on se planchait et qui faisait, j'allais dire pas honte, mais en tout cas qui pouvait se regarder encore en 90, en 2000, oui, sans problème. Quoi.
Et alors, toute la filmo n'est quand même pas de cette qualité-là, on est d'accord, par rapport à comment on l'est marqué. Mais on en revient à ce que je disais au départ, qui est pour moi, un des trucs qui m'a le plus poussé à fouiner dans toutes les directions, c'est quand tu vois que Melville, le samouraï avec Delon et Borsalino étaient cités par John Woo,
bah oui.
Tu te dis mais oui, et puis moi j'aurais surkiffé, mais vraiment à un niveau qui est assez ahurissant, j'aurais adoré voir un film, si à l'époque les questions de production internationale n'étaient pas aussi compliquées. Faudrait imaginer, de nos jours on aurait quelqu'un comme John Woo avec Chow Yun-Fat en Asie, et en France quelqu'un avec Belmondo. Je te jure, le mec qui monte une prod, Belmondo chez une fat, ou même monter le monde numérique, mais je suis client tout de suite.
Johnito a fait un film avec Johnny, je suis pas sûr que c'était la plus grande réussite qu'il ait fait.
Non, mais c'était une autre époque. Oui, mais c'est là ce que tu pointes est tout à fait ça. C'est que c'était une autre époque. C'était à l'époque, les productions internationales comme ça ne correspondaient à rien, n'avaient pas de sens.
C'est récent, le Johnito avec Johnny. Hein. C'est les années 2000. Hein.
Ouais, mais c'était pas encore bon.
Non, mais c'est que Johnny, c'est pas un bon acteur. C'est tout.
Alors, en plus, dire, voilà. Et puis même, Johnito n'est pas John Woo, quoi. Enfin, non, n'est pas le John Woo de l'époque hongkongaise.
Mais mais comme tu dis, moi, de la même manière que je maintiens que aborder Lelouch par Yann en frégaté, c'est intéressant parce que Lelouch a quand même marqué le cinéma français. Et aborder un Verneuil quand il fait un singe en hiver, voilà, on découvre un gabin. Bon, alors, on n'a pas encore parlé d'un singe en hiver, mais qui est quand même un must.
Qui est un film incroyable.
Fou de voir le vieux Gabin qui ressort d'ailleurs à un moment où il n'avait pas tourné depuis quelques années. Oui. On le met face à Belmondo qui est incroyable de charisme et de choses comme ça.
Et puis surtout qui tient la qualité, qui renvoie entre guillemets, parce que quand même Gabin était. On parlait d'acteur qui a du passif à la con. Gabin, il était pas mal non plus dans le style. Hein. Ouais. Et vraiment. Pour ce film-là, il se retrouve face à un acteur qui lui donne du répondant, qui le fait sortir de sa réserve, entre guillemets, pour ce film, qu'alors qu'il tournait quasiment plus, on est quand même... Ça prouve bien toute la valeur et toute la pertinence et toute la qualité humaine et professionnelle de quelqu'un comme Belmondo, peut-être quand tu le vois dans un singe en hiver.
Monsieur Hinault, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne ?
Monsieur Hinault, je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas de la même famille.
Alors toi, je te préviens, si t'es venu pour me donner des ordres, je vous virerai tous les deux à coups de pompe dans le train.
Oh. Et ce n'est qu'un coup de semonce. Allez.
Ah, oh, laissez-moi, hein.
Je compte rentrer chez vous tout de suite, j'appelle les gendarmes.
Ils ont déjà eu affaire à eux ce matin, j'aurais pas dû les relâcher.
Et laisse-les donc, ils sont ronds comme des boules.
Oui, monsieur. Plein comme la mer, en sucre et en bord. Il y a longtemps que vous attendiez ça, hein. Eh ben, ça y est. Comme ça, vous pourrez causer et gagner vos soirées d'hiver.
Ah. Albert, ils me font mal aux yeux, tirons-nous.
T'as raison, va. On n'a rien à foutre chez les Français moyens. On n'appartient pas au même bataillon.
Et lesquels, ben, qui c'est qui va les payer ?
Adressez-vous à l'intendance. Nous, on paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus.
On méprise.
Ce que tu disais un peu, c'est-à-dire que les mauvais Belmondo, il y en a quelques-uns. Mais il y a un côté où il y a forcément un truc sympa, à exception, après, il y en a peut-être un ou deux qui sont vraiment pas regardables, mais... Alors c'est rigolo parce que j'écoutais, on cite beaucoup d'autres émissions aujourd'hui, enfin je cite beaucoup d'autres émissions. J'écoutais Total Tracks qui est une émission
qui est un podcast,
qui est un podcast Mister par D. Mister D, Rafik et Professeur Desbrosses sur la musique de film. Ils ont fait deux ou trois épisodes sur le polar français. Donc évidemment il y a du Belmondo, notamment Le Professionnel, notamment d'autres films un peu de l'époque. Bon, ils sont pas très tendres avec Le Professionnel. Alors je trouve Le Professionnel très outrancier dans le côté 80. C'est difficile de faire un film plus 80 que Le Professionnel, quand même.
Ouais.
Et tu parlais de La Découverte. Le Professionnel, le spectateur français découvre Le Professionnel, il découvre Ennio Morricone. Il n'a pas forcément eu accès au Léon, il n'a pas forcément eu accès à tout l'univers du cinéma d'Ennio Morricone. Alors, Ennio Morricone, c'était une machine de guerre. Hein. C'était il écrivait partout. Et du coup, ça a été aussi un abord en disant, putain, cette musique, elle est quand même... mythique et ultra impressionnante. Et tu te dis, attends, c'est qui ce compo ? Et hop, et en fait, une fois de plus, tu es amené à d'autres cinéphilies.
Mais là, c'est la... De toute façon, c'était... Alors, sans faire le vieux con, pour changer, c'est vrai que c'est une énorme différence qu'il y a avec maintenant. C'est qu'à l'époque, quand tu voyais une jaquette de VHS au Vidéoclub, que tu voyais Jean-Paul Belmondo, tu faisais « Ok ». Le
René Château.
Okay, René Château Vidéo. Et puis, tu voyais, musique d'Ennio Morricone. Moi, Ennio Morricone, c'était le bon, la brute et le truand. Et le cimetière de Sad Hill. Je vois ça, je fais, savoir ce qu'il a fait là-dessus. Même si le film en soi ne m'intéressait pas au départ, je veux voir ce qu'il a fait là-dessus. Et à l'époque, on avait bien plus... On se raccrochait des fois des toutes petites trucs pour aller voir un truc, un film. Il y avait un détail, une jaquette. Les vieux comme nous qui disent ouais, mais nous, on choisissait les films à la jaquette. Ou quand j'entends Bouli qui dit moi, je choisissais mes albums à la pochette. C'est la même logique parce qu'il n'y avait pas d'écoute.
On avait moins d'infos surtout.
On avait moins d'infos. Il n'y avait pas de possibilité d'écouter avant d'acheter parce que Spotify, finalement, t'écoute avant d'acheter un album. Tu peux faire ça.
C'est vrai.
Du coup, c'est vrai qu'on se rattache. On se rattachait à tout un tas de petits détails qui. Amener notre curiosité, pourquoi on apprenait le nom d'un directeur photo, d'un chef-op ? C'était pas par, on va dire, par geekerie, même si je déteste ce mot, par nerdisme, mais c'était parce que, en vérité, on cherchait constamment une info qui nous permettrait de trouver une piste pour retrouver autre chose. Quand j'ai une interview dans Mad Movies, ou je sais même plus où est-ce que j'avais lu ça, enfin bon, toujours, c'est toujours la question de la liaison par rapport à un nom et une information qui transitait et qui passait d'un domaine à l'autre, qui passait d'un champ. Du cinéma, d'un champ de la littérature aux comics. C'était tous ces ponts-là que l'on faisait de façon bien plus, bien moins rapide, bien moins dynamique que ne l'offre maintenant le fait d'avoir ne serait-ce que Wikipédia. Wikipédia avec les liens dynamiques, ce sont des ponts que l'on faisait, nous, en épluchant le dos des jaquettes des films de Roger Corman. C'était ça, c'était ce genre de conneries. Je dis conneries parce que de nos jours, ça semble dérisoire, mais c'était... on n'avait pas d'autre accès à l'info.
Complètement. Après, il y a eu des... moi, j'ai aussi, pas découvert, mais j'ai suivi aussi, quand on voit Le Magnifique, il faudrait faire une double séance, Le Magnifique, Last Action Hero, parce qu'en fait, ça raconte à peu de choses près, pas la même chose, mais c'est vraiment cette idée-là du méta à mort. Alors, j'exagère parce que Last Action Hero, c'est de la magie, donc c'est censé être vrai. Le Magnifique, c'est un romancier et on voit ces histoires de. Alors, si vous voyez Bob Sinclair, qui est le personnage du Magnifique, d'espion créé par Le Magnifique, en fait, c'est Hubert Bonnicer de La Salle. Hein, c'est le même.
Alors, non.
Hubert Bonnicer de La Salle, il s'est inspiré et de Sean Connery dans James Bond et du Magnifique.
Et un petit peu, si tu vois le dernier OSS 117, à l'inverse, celui qui vient prendre le relais, c'est le Bebel des années 80.
C'est Pierre Niney.
J'adore la construction qu'ils ont fait dans le dernier. C'est très très malin parce que OSS 117 est un Sean Connery français des années 50 avec le discours colonialiste de merde. Qui est vieillissant et qui se retrouve face à un Bebel qui a Jos Beaumont, honnêtement, qui a un Jos Beaumont à côté de lui. Et c'est... le film est très très loin d'être parfait, mais... on en revient à la question que je disais de l'accès à l'information, d'une forme finalement de culture autour d'un truc. Là, si tu n'as pas les références pour ce film-là, tu passes à côté de la moitié de l'intrigue et des gags.
Mais Azanavicius n'a jamais caché, de toute façon, sa référence et du jardin aussi.
Référence
au Magnifique et à Belmondo. Donc, c'est vraiment un acteur. Moi, j'allais citer aussi dans Le Magnifique le fait que le scénario est coécrit et un peu sauvé par Francis Weber. C'est très mal entendu, comme tout le temps Francis Weber quand il n'est pas tout seul, en fait. il s'entend jamais avec personne. Sauf qu'il y a des... Donc Francis Weber, c'est le monsieur qui a fait le dîner de con, la chèvre, des choses comme ça. Et en fait, il y a déjà ces trucs-là, alors que lui, il bosse pas encore... Il n'est pas encore aussi connu que ça, quoi. Mais donc, vraiment, il y a, c'est ça aussi, je pense, la force de Belmondo, c'est d'avoir traversé, effectivement, 40 ans de cinéma français, et 40 ans de cinéma français dans tous les sens, quoi. Dans vraiment ce qu'on disait, quoi. Il a tout traversé, et partout, après, quasiment, entre guillemets, après, enfin, pas quasiment, apprécié partout, quoi. Ça veut dire que, voilà, il y a un côté, voilà, Godard le fait tourner, Truffaut le fait tourner, Verneuil le fait tourner, De Broca le fait tourner, enfin, et tous, ça marche bien, quoi, voilà.
Lelouch, Rapneau dans Les Mariés de l'an 2. J'avais oublié celui-là. Il est bien. Arcadie à la fin, même si c'est pas un bon film. Non, non, il est vraiment le marqueur d'une génération au sens très très large. Et c'est pour ça qu'on voulait en parler dans un brocage, parce que c'est vraiment un acteur qu'on vous conseille de vous plonger dans sa filmo. De trouver, comme je disais tout à l'heure, ces petits éléments qui vont vous faire choisir un film à regarder de lui, parce que
vous allez pouvoir la musique, parce qu'il y aura Cosma, il y aura Michel Legrand, il y aura Ennio Morricone, voilà,
si vous voyez,
des réalisateurs, vous avez d'autres acteurs, des gens qui sont face à lui, vous allez forcément trouver un point d'accroche.
Si vous allez même dans le même réalisateur, si vous allez entre 100 000 dollars au soleil de Verneuil, Le corps de mon ennemi de Verneuil, c'est pas les mêmes films. On a du Belmondo, on a un acteur qui joue, un acteur qui interprète, mais c'est pas la même chose. Et si vous continuez dans Verneuil, rajoutez Peur sur la ville, et vous avez une espèce de triptyque avec le même réalisateur, où Belmondo nous fait trois personnages extrêmement riches, extrêmement intéressants. Peur sur la ville étant mythique à cause... Et regardez Peur sur la ville, juste pour les vues de Paris, vous allez rien reconnaître.
Non, ça a un peu changé depuis.
Mais, cherchez ces petites choses. Regardez dans la filmo, il y a tellement de trucs. Le docteur Popol de Chabrol est glaçant, parce que y a tout un... La fin du film se passe avec quelqu'un qui raconte, du point de vue d'un autre personnage, une partie de l'intrigue qu'on a déjà vue. Ce film m'avait scotché parce que j'avais été pour aller voir Belmondo. Pour le coup, là, ce coup-ci, j'avais été, et j'avais été tellement surpris.
La Skowoon m'avait marqué parce qu'il y a une scène, je crois, de déminage dans la Skowoon qui est hyper stressante. Il y a
Borsalino. Mais Delon est un connard, mais regardez Borsalino.
Ben non, c'est brillant. Et puis il fera l'As des As, qui est l'archétype de la comédie, Gérard Rouy, sympa, drôle. Voilà, moi c'est pas mon préféré, mais il y a un côté
Il est généreux.
Quand on lui parle de l'élection d'Hitler en Allemagne, Belmondo dit quand il y a 40 millions de personnes qui font une connerie, ça peut rester toujours une connerie, quoi.
C'est pas parce qu'il y en a 40 millions qui la font que ça reste pas une connerie. Ouais.
Donc voilà, alors ce qui est marrant, c'est qu'une fois de plus, il traverse tout ça en étant lui-même, c'est-à-dire en ayant la même, j'exagère à peine, mais quasiment la même gouaille, la même façon de parler.
Par moment, tu le reconnais, oui.
Ça n'est pas un caméléon, quoi, il ne se transforme pas du tout.
Alors, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que si vraiment on va aller jusqu'au bout de la logique, entre ce qu'il fait sur, je ne vais pas aller trop loin dans le temps pour pas que ce soit trop marqué, mais entre Les Tribulations d'un Chinois en Chine, Le Professionnel et Itinéraire d'un enfant gâté, on a une petite trentaine d'années quand même entre les deux. Une vingtaine d'années, pardon.
Il a des punchlines pareilles. Il y a le côté physique qui a changé.
C'est là où je suis pas d'accord avec toi. La seule chose qui change pas, c'est sa présence physique. Il a une... À l'écran, il est là. Il joue pas de la même manière, mais à l'écran, il a une façon d'être là qui est la même pour les trois, tu vois. Mais... Itinéraire d'enfant gâteau, moi je l'aime pas du tout pour les mêmes raisons que toi. Je l'aime parce que il met en valeur tout le reste du casting. Et je peux te dire que pour certains, il y a du boulot. Il met en avant tout le reste.
Dans Un bout de souffle, il a une punchline où il regarde la caméra, ce qui était quand même très, très osé à l'époque. Hein,
oui,
il dit si vous n'êtes pas la montagne, si vous n'êtes pas la mer, si vous n'êtes pas la ville, allez vous faire foutre. Et voilà. Et dans Itinéraire d'enfant gâteau, il a des punchlines. Qui sont repassés de ouf, pas face caméra, mais
c'est moins que c'est sauf que c'est
quand
moins
il dit à Richard Antonina, j'ai pas peur des lions ni de toi ou des trucs, enfin voilà, il y a beaucoup de je trouve qu'il a toujours été servi comme ça,
oui,
la fin de Le Pierrot le Fou, je crois que la fin c'est pas une super journée, il explose, quoi, enfin, voilà,
oui, non, mais oui, alors Pierrot le Fou, pareil, tu vois, on en revient à Pierrot le Fou, c'est Belmondo, parce que il y a cette physicalité. Mais il fait pas ce qu'il fera après. Le Bébel en 65, quand il fait Pierrot le Fou, il est pas Bébel. Il n'est pas encore ce Bebel des années 80 dont on parlait tout à l'heure. Et c'est ça qui est génial. Et il est pourtant... Alors, Pierre Ruffo, c'est Godard. Donc, c'est son deuxième film avec Godard. Oui, je ne dis pas de bêtises.
Oui, oui.
Il est même pas dans la même interprétation que dans Au bout de souffle.
Non, bien sûr.
Au bout de souffle,
oui, mais je trouve qu'il y a tout un truc... on retrouve quand même quelque chose, quoi. Il y a quand même... dans L'Homme de Rio, il y a déjà des trucs des années 80. Moins dans le polar, moins dans la pétarade, je dirais. Mais... Bien sûr qu'il y a des périodes, mais je trouve que c'est toujours Belmondo, quoi. Il n'y a pas ce côté caméléon, et c'est pas un reproche.
Je suis d'accord, c'est que physiquement, on n'est pas sur du Dustin Hoffman de la grande époque ou du De Niro, mais il interprète, il est un rôle.
Oui,
il
oui,
est
ouais.
lui, mais il est d'abord le rôle. Tu parlais tout à l'heure d'Un inconnu dans la maison, il est incroyable, mais c'est Belmondo.
Oui.
Mais il est... C'est,
C'est pas le mec du professionnel, on est d'accord. Ah alors oui. qu'il y a que quelques années qu'il sépare. Il y a 8 ans qu'il sépare. Dix ans. Mais effectivement. Alors après, il va jouer le mec bourru, qui ressort de son alcoolisme et tout. Enfin voilà, c'est assez brillant, mais voilà. Donc quelque part, c'est quand même Bebel. Donc il y a forcément un truc qui va vous plaire dans la filmographie de Belmondo.
Tirer des fils de ce qui vous intéresse et ça vaut le coup. Alors, de là à dire que l'acteur fait partie du patrimoine de la France.
Mais Delon aussi. Hein. On fera pas d'émission sur Delon parce que.
Non.
Parce que le personnage est très compliqué. Après, il a marqué.
Alors, connard.
C'est surtout qu'en fait, Delon, sa carrière, je vais être un peu cru, sa carrière va s'éteindre plus vite en fait.
Ça, c'est vrai.
Ça veut dire Delon en 60, il y a le samouraï, on va faire très court, le samouraï, la piscine, des choses comme ça, Monsieur Klein.
Alors, par contre, lui, il interprète
soleil,
pas, il est lui, point.
Il y a un truc qui est magnifique dans le côté Delon, beau gosse, machin et tout. À partir de 70, ça part un peu en cacahuète, alors à partir des années 80,
c'est mort.
C'est Francis Lalanne dans Le Passage. Voilà.
Donc,
effectivement, il n'y a pas ce côté transversal, ce côté universel, en fait, qu'a Belmondo. C'est ça aussi qui plaisait
au public. C'est une forme d'universalité.
C'est ce que vous pensez. Encore un film sur les animaux. Eh bien non. Un film d'acteurs. De grands acteurs. De très grands acteurs. Pardon ? Ah bah oui, bien sûr, monsieur Lelouch. C'est également un film de grands metteurs en scène. Ça va de soi, monsieur Lelouch. C'est trop, j'arrête ? Bon, très bien.
Voilà. C'était donc un brocache.
Voilà, sur Jean-Paul Belmondo, qui va beaucoup nous manquer, mais on va se replonger dans ses films avec plaisir. Je pense qu'on va en avoir des ressorties de plein de choses.
Voilà, alors oui, alors en plus, vous avez de la chance, si vous avez été abonné à Netflix, il y a énormément de sa filmo qui est disponible sur Netflix.
Du bon et
justement, il y a énormément de choses. Voilà. Il y en a une bonne quinzaine, et allez-y, trouvez le fil qui vous fera vous intéresser à ce qu'il a fait. En plus, ça vous fera si vous êtes entre 20 et 30 ans, ça fera des trucs à discuter avec vos parents.
Exact.
Voilà. Et donc c'était la fin de ce brocache, le premier du genre, donc où nous parlons ensemble de choses que nous aimons.
Et puis on va se retrouver très vite pour un nouveau numéro.
On revient vraiment.
Voilà, ça va venir. Cultivez-vous bien et puis à la prochaine.
Cultivez-vous bien.